C'est Vive le cinéma qui fait sa table ronde et son retour de Cannes ce matin en direct. Le festival de Cannes s'est terminé samedi soir avec un palmarès que nous allons vous détailler. Et Pierre Charpillos, Benoît Basirico sont ici dans le studio. Bonjour Pierre. En fait, Benoît n'est pas encore tout à fait là, mais
oui, c'est ça. Bonjour Bernard. C'est les retours de Cannes. Donc voilà, il s'est couché tard, il était fatigué toute la semaine. Donc là, il est présentement en train de courir dans la rue et de nous rejoindre
dans les couloirs.
Voilà, donc nous meublons en l'attendant. Mais voilà, on a vu beaucoup de films, on a beaucoup de choses à dire.
Voilà, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a pas forcément vu les films qui ont été primés. Mais on c'est peut ça. Vous parler quand même de ce qu'on a vu à Cannes.
C'est ça, et on a vu des belles choses.
Voilà. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qu'on peut détailler, c'est le palmarès.
Donc, on peut dire un mot tout à fait sur le palmarès, avec cette palme d'or pour un simple accident de Jafar Panahi. Jafar Panahi qui était dans la salle, puisqu'il a été longtemps emprisonné, interdit de sortir du territoire en Iran, et on a vu plusieurs de ses films à Cannes sans sa présence. Donc il y avait quelque chose d'assez fort, effectivement, de le voir monter sur scène, recevoir sa palme. Alors effectivement, j'ai pas vu le film, mais on peut se poser la question de est-ce que c'est une palme aussi politique par rapport à son sujet, au sujet que Jafar Panahi a toujours défendu, ou est-ce qu'il s'agissait aussi de le célébrer là un peu à la fois pour ce film et pour tout son travail. C'est vrai que c'est, et tout son combat, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est donc Benoît qui nous rejoint, qui prend sa place.
Bonjour, je pensais que j'allais arriver sur le générique.
Eh oui, et non.
Et nous, on était en train de détailler un peu le
palmarès.
Le palmarès, en tout cas d'annoncer, de rappeler un peu qui avait été primé.
C'est ça, le Grand Prix, c'était
samedi soir.
D'accord, et aucune musique est encore diffusée, c'est ça?
Non, t'attendais.
Okay. Voilà. Il arrive.
Il faut juste, la première chose peut-être que je peux dire à chaud, le temps de m'installer et de m'asseoir, c'est qu'on est dans un état où Pierre et moi, nous sommes rentrés du festival hier, après 15 jours à dormir 4-5 heures par nuit, voire 4-5 films par jour. Ce qui fait que nous sommes là dans un état de débrief, à chaud, comme des zombies.
Voir 4-5 films par jour et même pas la Palme d'Or, ce qui est quand même un scandale.
Alors ça, c'est très drôle parce qu'il y a deux films que je n'ai pas vus du palmarès. Le Dardenne, parce qu'il sort à Paris, je me suis dit que j'allais le voir cet après-midi. Et le Panahi, puisque je ne suis pas rentré à Bazin pour un problème.
Il faut expliquer Bazin.
Bazin, c'est une salle dans le Palais des Festivals, dans laquelle on peut voir des séances de presse en parallèle de la montée des marches.
C'est une petite salle.
Voilà, en fait. Voilà, donc c'est une petite salle dans le Palais que j'aime bien, en fait, aller dans celle-ci. Donc c'est intéressant de raconter les coulisses. Parce qu'en fait, il y a les grandes salles axées depuis l'extérieur, où il faut sortir. Et si on veut rentrer dans le Palais, il y a des complications de checking. Moi, j'aime bien enchaîner des séances au Bazin, parce que du coup, on reste dans le palais, on gagne du temps sur le checking.
Et on peut peut-être dire d'ailleurs que le Palais des Festivals de Cannes est le plus grand palais des congrès de France, donc c'est un véritable labyrinthe, hein. Il y a des salles partout, il y a 4 étages de hauteur, 2 étages de sous-sol, où on trouve notamment le marché du film, et puis il y a énormément de salles à l'intérieur du palais, donc on peut prendre plusieurs longues minutes pour traverser ce bâtiment d'une salle à l'autre.
Et on a appris hier ou avant-hier que le palais était une sorte de bunker qui était le seul endroit qui fonctionnait en cas d'attaque électrique.
C'est ça. En cas de fin du monde, on pourra quand même regarder des films à Cannes, parce qu'effectivement, il y a eu une coupure d'électricité dans la région de Cannes qui a affecté tout le monde, sauf le palais, à part quelques secondes où il y a eu une interruption, le temps que le palais bascule sur son propre générateur, parce qu'ils ont son propre générateur pour parer à toutes les éventualités. Et les seuls endroits, c'était intéressant quand même, où on pouvait manger à Cannes à midi, puisqu'il y a eu cette coupure d'électricité, c'était donc au Palais des Festivals et dans les palaces de luxe, qui avaient également leur propre générateur. Donc voilà, nous savons que nous vivons dans un monde de Ruben Östlund, où seuls les milliardaires, les millionnaires peuvent continuer à vivre normalement.
C'était un bon test, parce que c'était revendiqué, justement. C'était vraiment pour perturber la fin du Festival de Cannes, ce sabotage. Hein. Donc, on voit ce que ça a provoqué.
Parce qu'il y a eu un sabotage aussi le lendemain matin à Nice, qui a fait une petite coupure d'électricité, mais qui était très courte, autour de Nice.
Là, il y a eu plein de suspicions, de d'où ça vient, donc c'est revendiqué. Évidemment, a priori, je ne pense pas que ce soit le cas, mais a posteriori, juste une chose peut-être qu'on peut dire sur la palme qu'on n'a pas vue, c'est que le ministre, un ministre français, a félicité Panahi, ce qui a créé un conflit diplomatique, puisque le Shah d'Iran a reproché à la France de soutenir
Il a
reproché à la France d'avoir félicité Panahi, parce que Panahi, donc, c'est, on peut dire, on parlera pas du cinéma dans le film, mais on peut parler du geste politique de Juliette Binoche.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que tu arrives, c'est effectivement ça récompense aussi, c'est sûr, au-delà du film, effectivement, le combat de toute sa vie, ou en tout cas de toute une grande partie de sa vie, de Jafar Panahi, qui a donc été effectivement emprisonné, interdit de sortir de territoire, et surtout interdit de filmer, hein, qui est quand même le comble. Il en a fait un film, d'ailleurs, Ceci n'est pas un film, où il raconte son impossibilité à faire un film en Iran. Cinéma iranien qui d'ailleurs se porte quand même plutôt bien, puisqu'on a vu le film de Moaed Rasoulof l'an passé. Cette année, on a eu aussi un film de Saïd Roustaï, Woman and Child. Donc voilà, il y a quand même un cinéma très vivace, très divers aussi en Iran aujourd'hui.
Et après La graine des figuiers sauvages, qui était déjà très politique, ils n'ont pas remis à Panahi un prix spécial comme les graines du figuier sauvage. Ils lui ont remis directement la palme. Et d'ailleurs, Juliette Binoche a précisé, même si on dit que c'est un geste politique, elle a dit que c'était un geste de cinéma. Donc en fait, elle a voulu éviter qu'on pense que c'était uniquement pour le geste politique.
Oui, et Jafar Panahi a dédié la projection à Cannes à tous les artistes exilés d'Iran. Ce qui est intéressant parce qu'il y a effectivement beaucoup d'artistes iraniens qui ne sont pas exilés, donc on peut aussi se poser la question à l'envers. Il est dédié à tous les artistes exilés d'Iran. Je pense à des réalisateurs qui ont été aussi beaucoup célébrés à Cannes, qui sont obligés parfois un peu de se complaire avec les règles du régime pour pouvoir tourner leurs films. C'était intéressant d'ailleurs de voir le film de Saïd Roustaï à Cannes, Woman and Child, puisque son film précédent, Layla et ses frères, racontait entre les lignes quand même une critique du système iranien, même si c'était beaucoup moins frontal. Et Saïd Roustaï, qui vit en Iran et qui fait ses films de manière officielle en Iran, a eu des problèmes suite à ce film Layla et ses frères. Il a eu une peine d'emprisonnement qui n'a finalement pas eu lieu, mais en tout cas il a été condamné. Et dans Woman and Child, c'est assez intéressant de noter, dans une histoire qui ne parle pas du tout de politique, dans une histoire intime, que chaque plan avec des femmes, les femmes sont toujours voilées, y compris quand c'est à l'intérieur, y compris quand c'est dans la salle de bain, où elles ont une serviette sur la tête. Donc on sent que quand même il a dû se complaire avec le régime. Et puis on pense aussi évidemment à Asghar Farhadi, ce grand cinéaste iranien qui est souvent aussi considéré comme un peu le cinéaste officiel du régime iranien, puisqu'il représente l'art officiel, entre guillemets. En tout cas, il est sous la tutelle et sous la bonne protection du régime à l'international.
Alors je propose qu'on fasse le débris du palmarès en ordre inverse de la remise. Là, on vient de parler donc du Panahi par rapport à l'Iran, par rapport aux gestes politiques. Et donc je propose qu'on parle donc ensuite du Grand Prix et d'autres prix. Et on va écouter une musique. Alors une musique d'Ennio Morricone. Alors avant de l'entendre, je vais préciser, j'ai jamais ressenti à ce point la présence de Morricone au Festival de Cannes. Il y a des compositeurs qui ont eu comme référence Morricone. Directement, la réalisatrice ou le réalisateur a donné comme référence Morricone. Et puis aussi, sur le côté western, je pense à L'Englouti de Louis Aymon, où il y a un retour dans un village. Donc il y a un côté western, et il y a la flûte, la guitare, tout un instrumentarium de western qui se retrouve dans énormément de films cannois.
L'Englouti qui était à la quinzaine, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Et L'Englouti qui était à la quinzaine des cinéastes, en effet. On entend Morricone dans L'Englouti, on entend Morricone dans Le mystérieux regard du flamant rose, qui a reçu le grand prix d'un certain regard, où Florencia Di Concilio a utilisé aussi les instrumentations de western avec trompette, percussion, sifflement, pour également un désert, village chilien. On peut dire aussi, on y reviendra, sur Sirat, qu'on a aussi tout un instrumentarium. Enfin, on n'a pas la musique du western dans Sirat, mais on a l'esthétique. Donc Morricone est présent partout, et notamment directement dans le film brésilien de Mendoza Filho, L'Agent Secret, puisque ce titre de Morricone figure dans la BO du film.
Da 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 da
Et donc l'agent secret de Mendoza Filho, avec cette partition de Morricone qui apparaît dans le film, bien qu'il y ait également des compositeurs sur ce film, Mateus et Thomas Alves, deux frères, qui retrouvent d'ailleurs le réalisateur après Bacuro et voilà, pour ce thriller qui se déroule au Brésil en 1977 et qui suit Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années, fuyant un passé trouble, qui arrive dans la ville de Recife, où le carnaval bat son plein, donc mélange comme ça festif et policier. Peut-être abordons tout de suite l'agent secret, dans la mesure où c'est peut-être une deuxième palme, parce qu'il a eu deux prix. Donc il surévalue le grand prix à ce niveau-là, puisqu'on lui a remis le prix d'interprétation pour l'acteur Wagner Moura, et le prix de la mise en scène, on peut dire que c'est le prix qui lui va le mieux.
Oui, Bernard.
Évidemment, le prix de la mise en scène est un beau prix, et effectivement, je pense que c'est un prix qui lui convient parfaitement à Kleber Mendoza Filho. Beaucoup de gens pendant le festival, il y a toujours des rumeurs, des aussi ce que veulent les journalistes. Il y a aussi il y a plein de choses comme ça qui s'expriment, plein de gens qui s'expriment aussi. Et on a beaucoup parlé d'une éventuelle palme qui pourrait être donnée à ce film. Il était en tout cas dans les palmables. Et puis effectivement, donc c'est un peu une palme bis qu'on lui donne avec ces deux prix là. Et c'est bien normal parce que je pense qu'avec ce film là, en tout cas Kleber Mendoza Filho, il arrive à un point de son cinéma extrêmement important. Alors, il peut continuer, évidemment, sur ce niveau-là, mais c'est un point d'une grande maturité, d'une grande envergure. Le film dure 2h30. C'est un film choral, mais c'est un film qui mêle plusieurs couches assez incroyable. Ce que disait Carlo Chatrian, je me souviens, sur son Instagram, était très juste. Donc l'ancien directeur du Festival de Berlin disait qu'il n'y a que Kleber Mendoza Filho pour tricoter comme ça un film qui parle autant de carnaval que de politique, que de dictature, que de mémoire, et en même temps en faire un film, presque un film de genre à un moment donné, puisqu'il y a à l'intérieur du film à un moment donné une petite séquence où
une jambe
poilue qui a été avalée par un requin et qui est recrachée à un moment donné quand le requin meurt, qui est une jambe appartenant certainement à un opposant de la dictature, parce que le film se passe en 1977 à l'époque de la dictature au Brésil. Comment à un moment donné cette jambe, qui est un des personnages secondaires du film, va s'échapper et va s'autonomiser dans le film.
Jambe que Kleber Mendoza Filho a emmené avec lui sur la croisette.
Absolument.
C'est quand même intéressant.
C'est comme un personnage principal. Et ce que j'aime beaucoup dans L'Agent Secret, alors il y a beaucoup de films à Cannes où il y a des bifurcations du récit, il y a une volonté de cinéma mais qui nous fait perdre le lien narratif, l'attachement, l'empathie, l'émotion. Là, dans L'Agent Secret, il y a des digressions, mais à aucun moment ça nous fait sortir de la trame centrale. On ne perd pas ce personnage central, donc ça, c'est vraiment fort narrativement.
Oui, il y a une grande liberté narrative dans le film, toujours chapitré, hein, c'est souvent le cas dans son cinéma. Il y a des choses qui reviennent de film en film, il y a toujours une sorte de générique avec des images d'archives, souvent dans ces films. Il y a toujours une chanson qui démarre le film. Il y a toujours, voilà, évidemment, et là ça prend encore plus de sens dans ce film. Le film dialogue aussi beaucoup avec les précédents. Hein. Je serais tenté, par exemple, de dire que Aquarius était un film qui s'adressait un peu à sa mère, qui était le portrait un peu de sa mère. Le personnage féminin ressemblait beaucoup à sa mère. Là, il dialogue plutôt beaucoup avec la figure du père. Et il y a un enfant dans le film qui rêve de voir les dents de la mère, qui finira un jour par le voir. Ça fait partie un peu de ce que raconte le film. Et en attendant de le voir, il fait des cauchemars. Il sera peut-être guéri, une fois avoir vu le film, de ses cauchemars, justement. Mais il fait ses cauchemars parce qu'il vit aussi à sa manière la dictature, ce qui est en train de se passer, et avec la figure de son père qui est recherché, justement, et qui est loin de lui, où il pressent aussi un danger. Et voilà, et donc il y a tout un dialogue comme ça avec le père, et il y a Dol dans les deux films, dans Aquarius et dans L'Agent Secret, la même scène, même type de scène où en fait les deux personnages principaux mettent à chaque fois un vinyle avec une chanson qui raconte des choses du film. Et ces deux scènes dialoguent ensemble, et pour moi elles sont vraiment du coup symptomatique de ce dialogue qu'il établit entre les films. Et puis il y a évidemment ce dialogue qu'il établit avec son film précédent Portrait fantôme, puisqu'il y a une très très grande scène, très importante scène du film, qui se passe dans le cinéma de Saint-Louis, le cinéma que connaît extrêmement bien Kléber Mendoza-Filho, puisqu'il y situe aussi son festival. Il y a un festival qui a lieu au mois de novembre tous les ans, le festival de Janela. Et donc, cette fois-ci, ce cinéma devient un lieu à part entière de son cinéma, dans le cinéma de fiction, hein, puisque Portrait fantôme était un documentaire, et notamment un personnage de projectionniste aussi important dans le film. On pourrait dire énormément de choses. Évidemment, c'est un film qui dialogue aussi avec le film de Walter Salles, qui est sorti au début de l'année.
Je suis toujours là.
Et c'est un film, je pense, qui va avoir une importance très importante aussi dans le travail de mémoire qui est à l'œuvre en ce moment aussi depuis le film de Walter Salles, ce qui fait que les jeunes générations prennent conscience qu'il y a eu une dictature au Brésil, parce qu'il avait visiblement occulté, de manière directe ou indirecte, en tout cas. Donc le film travaille aussi à ça, et va être très important, sa sortie va être très importante dans les prochains mois au Brésil sur cette question-là, sur la question de la dictature. Et puis voilà, si tu parlais de Morricone, dès le départ aussi on pense à Tarantino, parce que la première scène, ça, c'est comme dans un film de Tarantino, avec un cadavre par terre, une voiture qui arrive, et puis ce temps qui se dilate, ces scènes extrêmement dialoguées, et c'est globalement d'ailleurs, comme le fait Tarantino, ce film, je pense, il y a une jouissance de filmer qui fait aussi, et une jouissance d'infuser dans le film aussi toute sa cinéphilie et tout ce qu'il a pu voir, et tout ce qui est d'être un metteur en scène, mais en même temps homme de cinéma à part entière, cinéphile à part entière, qui fait que c'est aussi extrêmement jouissif pour le spectateur, je trouve, de voir le film.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, comme ça c'est fait. Alors, le film brésilien...
J'allais dire peut-être un mot quand même sur Wagner Moura, qui a eu ce prix d'interprétation. C'est vrai que c'est un acteur qu'on voit aussi dans des films internationaux, et c'est peut-être le seul acteur brésilien qui est très identifié du grand public, même pas spécialiste de films brésiliens, parce qu'il était dans Narcos, et puis il était dans Civil War aussi, un rôle assez important. Donc juste pour qu'on voit qui c'est exactement, un acteur effectivement... assez formidable, et je sais pas, j'ai pas vu le film, mais qui mérite, j'imagine, le prix d'interprétation.
Ouais, tout à fait, il est incroyable. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors à la fois dans ce personnage, d'ailleurs dans la mise en scène, c'est qu'il y a à la fois de la distanciation, du recul, de l'humour, du méta-cinéma, et en même temps une efficacité, parce que la traque finale, on est vraiment pris en haleine, à la fois dans la paranoïa, ça peut rappeler des films paranoïaques des années 70 aux États-Unis. Cette traque est incroyable. Donc il y a une efficacité, et ce film peut trouver le public. On se pose toujours la question sur les films du palmarès, sont-ils uniquement pour un entre-soi cinéphile, ou alors pour un grand public. Je pense que le film peut trouver le grand public par cette efficacité policière.
Il va falloir attendre un peu parce que le film sort mi-janvier, malheureusement.
Et le film sort mi-janvier,
Sort le 14 janvier, très exactement.
C'est ça. Eh bien, je propose qu'on diffuse une autre musique qui n'a rien... Alors là, pour le coup, exceptionnellement, les musiques ne sont pas forcément liées à des films dont on parle, mais des musiques que j'ai appréciées dans la sélection du festival. Et ce sont des musiques inédites, puisque les films ne sont pas sortis, la BO n'est pas sortie, donc je remercie les compositeurs de nous les avoir confiées. Donc on va écouter la musique de Rémi Boubal pour Renoir, un film japonais de Shiak Ayakawa, qui est en fait une jeune fille en rôle principal, et on a accès à tous ces cauchemars, à ces visions, à ces doutes, à ces angoisses. On a vraiment le monde de l'enfance, le monde onirique, et qui passe par des sonorités cristallines.
Thank you.
Et donc à l'instant, la musique de Rémi Boubal pour Renoir, qui propose un monde ouaté, comme ça, comme une bulle autour de l'enfant du film, qui est dans son isolement et ses rêves et ses cauchemars. Voilà, donc très belle musique de Rémi Boubal, qui n'a pas eu de prix, Renoir, mais à retenir également.
C'est une actrice japonaise qui fait beaucoup de films en coproduction avec la France et qui avait notamment fait ce film très étrange, Plan 75, sur effectivement le fait de se débarrasser des vieux, sujet qu'on a évoqué avec un autre film récemment d'ailleurs, dans cette émission, donc Plan 75 au Japon.
Alors, on continue le débrief du palmarès, après la Palme d'Or à Panahi, après l'Agent Secret, prix de la mise en scène et prix pour l'acteur, le Grand Prix, Valeur Sentimentale de Joachim Trier, un film norvégien où il retrouve son actrice fétiche, Renate...
Renzve.
Voilà, après Julie en 12 chapitres, moi j'aime beaucoup ce film, je suis assez content d'ailleurs du palmarès, hein, donc vous le verrez à part à une exception, j'aime les films primés, Valeur Sentimentale, donc je trouve qu'il surpasse encore Julie en 12 chapitres, qui était plutôt éclatée narrativement, là on est vraiment avec ce personnage central qui est comédienne, son père cinéaste, il veut la faire jouer dans son film, elle refuse, relation compliquée avec le père, donc ça c'est à la fois un film sur le fait de jouer, sur les planches et au cinéma, et une relation conflictuelle avec le père. On pense beaucoup à Bergman, avec cette figure, ce personnage tourmenté, on capte son âme pendant tout le film, et sa mélancolie, hein, qui ne quitte jamais son visage. Voilà, film choc pour l'émotion qu'il génère. Et puis moi, j'aime beaucoup au niveau du montage. Au lieu de chapitrer le film, comme c'était le cas d'ailleurs dans Julie en 12 chapitres, il y a des noirs qui durent un peu plus longtemps que la norme, plusieurs longues secondes, mais donc on a un nouveau fragment de film qui arrive, mais on ne le situe pas parce qu'aucun carton. Donc ces noirs nous amènent ce film par fragments, mais des fragments qu'on n'arrive pas forcément à situer dans l'espace. Est-ce que c'est un an plus tard? Est-ce que c'est une heure plus tard? Et donc ça, c'est à nous spectateurs de reconfigurer finalement le puzzle narratif, toujours sans quitter ce personnage. Donc on a un peu ces états mentaux un peu chaotiques, qui sont reflétés aussi sur la forme.
Oui, donc c'est Stellan Skarsgård quand même qui joue le père, et on a aussi Elle Fanning, l'actrice américaine, qui joue donc une actrice hollywoodienne. Et quant à Renate Renzve, c'est vrai que c'est une actrice vraiment super, elle a eu le prix d'interprétation pour Julie en 12 chapitres à Cannes, elle était même dans les pronostics pour le prix d'interprétation féminine d'ailleurs, un peu dans ce qui se disait avant, parce qu'elle est effectivement très forte. Ça aurait été son deuxième, ce qui est quand même, peut-être, on a favorisé peut-être d'autres, il y a peut-être ça qui a joué effectivement. Et puis Renate Renzve qui fait aussi un peu une carrière américaine, puisqu'on l'a vu dans cette série Présumé coupable aux côtés de Jack Gyllenhaal. Et c'est d'ailleurs très intéressant de comparer, je trouve, les films qu'elle a fait en Norvège et les films qu'elle fait à Hollywood ou les séries qu'elle fait aux États-Unis, puisqu'elle n'a pas du tout le même visage. On voit qu'elle est vraiment filmée, maquillée de manière complètement différente et on sait qu'on la reconnaît, mais on se dit en même temps, on a l'impression que c'est une autre actrice. C'est assez passionnant à étudier quand même la mise en scène des actrices dans le cinéma hollywoodien versus le cinéma européen. Il y a quelque chose à creuser.
Très bien, donc c'était Valeur Sentimentale de Joachim Trier, avec cette incursion américaine et les Fanning dans le film qui apporte aussi quelque chose d'assez singulier, parce que c'est la confrontation entre deux cinémas, un cinéma plus de l'intime, plus du tourment à la scandinave, et donc Bergman, mais aussi les Fanning qui apportent une petite touche américaine, et puis le film dialogue sur cette confrontation entre deux types de cinéma.
Et c'était un Skarsgård qui parle toutes les langues, hein, puisqu'il est donc suédois, il parle norvégien, on l'a vu dans plein de films américains. Quel talent!
Parlons maintenant du prix du jury ex aequo, et peut-être qu'avant de parler de Sirat, parlons de Je laisse la main à Pierre sur Sound of Falling, que moi je n'ai pas, qui m'a pas convaincu, mais je vais laisser Pierre le défendre.
Oui, pour moi c'est un très grand film, c'est vraiment un de mes films préférés du palmarès. C'est donc le nouveau film de Masha Chilinski, une réalisatrice allemande, et c'est un film assez qui a l'air comme ça assez complexe. J'ai envie de dire, si vous avez vu Here de Robert Zemeckis, c'est presque une version réussie de Here de Robert Zemeckis, parce qu'on retrouve un peu cette même idée de génération qui passe au sein d'un même décor, qui est donc là un corps de ferme d'Allemagne de l'Est. Et on voit la vie de famille aussi bien au début du siècle, dans les derniers jours de l'Empire allemand, et dans les années 60, en plein Est Deutschland en Europe, en Allemagne de l'Est, avec ce côté, effectivement, c'est une ville qui a la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest, puis des périodes plus contemporaines, et le tout se mélange, est complètement disloqué, et on a des passages comme ça qu'on entre, aperçoit presque. Ce qui est assez passionnant, c'est que se passent des drames, des moments heureux aussi, mais beaucoup quand même de moments difficiles, dont on ne perçoit pas toujours exactement quels sont les tenants et aboutissants. Et c'est ça que je trouve assez passionnant, c'est qu'on sent, qu'on voit dans le regard, notamment, des personnages, toute la douleur qui les affecte, sans qu'on puisse véritablement la comprendre, mais on la ressent vraiment de manière émotionnelle, un peu comme quand on regarde des vieilles photos d'un vieux album de famille, de gens auxquels on est rattaché, mais qu'on n'a jamais connu, parce qu'ils sont morts bien avant que l'on naisse. Mais on a l'impression, quand on regarde leur visage parfois un peu triste ou heureux, de ressentir un peu de leurs émotions. Et ça fonctionne très bien, parce que déjà, il y a un travail de reconstitution qui est très très impressionnant dans le travail de reconstitution des époques. Et puis il y a une réflexion tout au long du film sur la photographie, la place de la photographie. La famille au début du siècle prend des photographies mises en scène de ses morts qu'elle pose sur un espèce d'autel, quelque chose de très fort. Et cette thématique de la photographie, des évolutions aussi de la technique photographique jusqu'au smartphone dans les époques contemporaines, en passant par les polaroïdes et évidemment les photos beaucoup plus posées du début du siècle, qui permettent aussi des espèces de fantômes qui apparaissent à l'image lorsque la photo impressionne le mouvement de personnes qui bougent au moment de la photographie. Enfin, il y a quelque chose de très très fort, de très beau visuellement. On travaille sur le son aussi assez formidable. Les passages notamment où on est sous l'eau, on ressent vraiment ce qu'on entend et ce qu'on sent quand on met la tête sous l'eau. Il y a vraiment, elle arrive à nous faire ressentir des choses. Donc pour moi, c'est un grand film sensoriel qui est assez bouleversant.
Film sensoriel, en effet, même sur le son, hein, qui joue de clics, de bourdonnements, comme ça, qui crée un climat tendu et claustrophobe. Cette ferme familiale est comme une chambre d'écho, en fait, d'histoires tuées, de blessures psychologiques. Tout dans ce film aurait pu me plaire. Voilà, alors je vais laisser les spectateurs sur le côté positif du film. Voilà, juste pour que le spectateur sache vraiment ce qu'est ce film. C'est un film où on peut se perdre narrativement sur les époques. On a du mal parfois à relier qui est qui est la mère de qui. Et donc moi, ça m'a un peu perdu émotionnellement aussi.
Mais on a le droit de se perdre. Je veux dire, c'est ça qui est toujours étonnant avec le cinéma, c'est quand on regarde une peinture, par exemple, à aucun moment les gens vont se dire « Ah ben, je comprends pas exactement ce que je regarde, c'est pas grave, tant que je ressens des choses. L'important, c'est de ressentir des émotions. » Là, c'est comme si on avait besoin absolument de tout comprendre tout le temps. Moi, ça me dérange pas de pas comprendre à partir du moment où je sais qu'il y a quelque chose à comprendre et à partir du moment où je ressens des émotions. Si je comprends rien et que ça me sort du film et que je m'ennuie profondément, bon, là, effectivement, ça fonctionne pas. Mais là, on ressent des émotions parce qu'on croit au personnage, parce qu'on croit à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu, même si on ne le voit pas. Et ça fonctionne parce que c'est une mise en scène vraiment d'une maîtrise assez époustouflante.
Et donc c'était le prix du jury ex aequo pour Sound of Falling de Masha Chelinski, un film allemand qui donc est ex aequo avec un film espagnol d'Olivier Lache, Sirat, qui lui est l'anti-Sound of Falling, quelques jours dans le désert marocain. Donc il y a cette unité d'action et de lieu où on est avec un père incarné par Sergi Lopez qui est en recherche avec son fils de sa fille disparue. Et donc là, on est vraiment dans un moment d'immersion totale. Le film s'ouvre sur une installation dans le désert d'enceinte. On se demande ce qui se passe. On est dans des plans rapprochés d'enceintes et de mains qui posent des enceintes. Et puis au fur et à mesure, le cadre s'élargit. On découvre les falaises. Et d'un seul coup, la musique d'une rêve partie résonne dans les falaises. Donc ça, c'est très trippant déjà physiquement. Un film vraiment physique où on vit en fait la résonance des enceintes dans ces falaises. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette musique intradiégétique, cette musique de fête, devient une musique d'angoisse et post-apocalyptique, parce qu'on ne quittera jamais ces résonances, même quand on est dans des vannes, dans des tracks, et dans la peur d'un précipice où le véhicule peut tomber. Donc on est un peu aussi après dans le convoi de la peur, le salaire de la peur, où on a peur à tout moment d'un accident dans les montagnes, puisqu'il y a l'imminence d'une guerre. On est un peu dans un film dystopique, hein, à la Last of Us, et on a l'imminence d'une guerre, et on voit que ces vannes fuient la guerre, et il y a des personnes qui sont ensemble mais qui ne se seraient jamais rencontrées. Donc Sergi Lopez, hein, qu'on voit, voilà, un père de famille qu'on imagine vivre dans une maison bourgeoise et qui est là par hasard pour chercher sa fille, et puis qui rencontre un peu des junkies, des punks, et donc il y a un côté Mad Max où tout le monde va essayer de survivre. Donc il y a ce récit de survie. Donc Sirat, c'était à Cannes l'un des premiers films qu'on ait vu. Et donc, tout de suite, on s'est dit, voilà, le grand film est La Palme. Alors, évidemment, ça a été supplanté par d'autres films, notamment L'Agent Secret, pour moi. Mais en fait, d'emblée, on était vraiment... Voilà, on s'est dit, oula, là, il va falloir faire... il va falloir qu'il y ait des films qui rivalisent. Donc, voilà, Sirat, grand premier choc de Cannes pour l'Espagne.
Il se retrouve avec donc, le prix du jury, ex-aequo, avec Son of Aline. Voilà, je précise, donc, Sirat sortira le 3 septembre, je crois. Pour les auditeurs, hein, parce que c'est toujours, c'est jamais évident de parler de films qui sont pas à l'affiche. Alors, on l'a pas dit, mais actuellement, il y a des reprises de films qui étaient à Cannes dans toutes les sections. En compétition officielle, ça a commencé ce week-end hein, au MK2, au Pathé, à l'UGC, dans tous ces complexes-là. En fait, il y a des films qui repassent, donc vous pouvez aller sur leur site et vous aurez les infos sur les dates de passage. La quinzaine, ça se reprend bientôt. Un Certain Regard aussi, et puis la semaine de la critique, c'est début juin.
Tout à fait. Voilà. On va parler dans un instant de la semaine de la critique et de la quinzaine. Juste dire que les quatre films dont on vient de parler sont vraiment dans les prochaines heures, les prochains jours, donc à l'UGC Bibliothèque ou dans des MK2, allez voir sur le web les séances, parce que c'est vraiment, ça va bientôt disparaître pour ce qui est de l'officiel.
D'autant que des films comme Son of Falling, par exemple, ne sont pas encore datés par le distributeur, donc... Voilà, il va falloir après ces séances de rattrapage attendre un peu, j'imagine, avant de le voir. D'autant que aussi, parfois, les films sont remontés après être vus à Cannes, ce qui ne sera peut-être pas le cas ici, parce que c'est un film d'un montage assez maîtrisé.
Ce qui, a priori, pourrait arriver pour Résurrection, mais bon, on ne sait pas.
Ah oui, bah oui, film qui était terminé en dernière minute, prix spécial.
Tout à fait, on parle de Résurrection dans un instant.
FM 93.1.
À l'instant, on vient d'entendre la musique d'Olivier Margueri pour Dossier 137 de
Dominique Moll,
tout à fait. Un film dossier, un film politique hein, sur les gilets jaunes et les violences policières. Un film qui n'a rien eu au palmarès, hein, mais la musique d'Olivier Margueri nous est parvenue, donc c'était l'occasion de vous la transmettre.
Il avait composé la musique du précédent film de Dominique Moll.
Exactement, Olivier Margueri avait fait La Nuit du 12, tout à fait. Alors, on retrouve Dominique Moll dans sa veine policière. Pierre, tu l'as vu ?
Oui, c'est un très très beau film, effectivement, Dossier 137, qui est une charge assez implacable et chirurgicale sur les violences policières et le fonctionnement même de la police, puisqu'on suit une agent de la police des polices qui enquête sur des violences commises en marge d'un mouvement de rassemblement des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Et on décrit la procédure de manière très très précise, les lettres qui sont faites au parquet, etc. Tout est fait pour de manière la plus réaliste entre guillemets possible, avec un personnage principal joué par Léa Drucker qui, c'est amusant, rappelle aussi le personnage qu'elle a interprété dans un film qui était présenté à la Semaine de la Critique, L'Intérêt d'Adam, où elle jouait là une infirmière, et dans les deux cas, c'était une femme très très impliquée dans son travail, presque trop impliquée dans son travail, zélée, qui allait parfois un peu trop loin et qui était presque prise par l'affaire qu'elle avait en cours, que ce soit autour d'un enfant maltraité ou qui en insuffisance ne se nourrissait pas assez dans L'Intérêt d'Adam ou par rapport à une famille victime de violences policières dans Dossier 137.
Dossier 137, donc, qui était en compétition avec cette musique pour parler de trois autres films du palmarès. Tout d'abord, Les Dardennes qui ont reçu le prix du scénario. C'est leur deuxième prix du scénario après Le Silence de Lorna, sachant qu'évidemment, Les Dardennes sont double palmés avec Rosetta et L'Enfant. Donc, nouveau prix. Je crois que c'est leur neuvième prix.
Ils ont eu un prix du jury. Ils ont eu un grand prix. Est-ce qu'ils ont eu un prix de la mise en scène ? Peut-être pas. la prochaine fois.
Ah. Donc, je n'ai pas encore vu ce film des Dardenne qui sort en salle.
Personne ne l'a vu autour de la table.
Faut le dire qu'on n'a pas vu ce film à Cannes, puisque finalement c'est le film que tout le monde, auditeur, auditrice, pouvait regarder. Donc on vous laisse aller le voir.
Comme on est snob, on va voir que les films que la plupart des gens ne voient pas.
Moi je le vois cet après-midi, du coup j'ai cette occasion, puisqu'il sort. Sinon, pour gagner du temps, évidemment. On évite à Cannes de voir les films qui sortent dans l'immédiat. Donc pour les Dardenne. Ensuite, on peut parler de La Petite Dernière d'Afsia Herzi, troisième long métrage réalisé par l'actrice, qu'on avait évidemment connu avec La Graine Émulée chez Abdelatif Kechiche. D'ailleurs, on retrouve des choses d'Abdelatif Kechiche dans le film La Petite Dernière, avec quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la bonté, hein, alors que Kechiche est beaucoup plus dans une cruauté parfois. Là, on est vraiment dans quelque chose de bienveillant. La Petite Dernière, donc Afsia Herzi, après deux films, notamment le deuxième, La Bonne Mère, qui est très autobiographique et un hommage à sa mère. Là, elle va dans un territoire qui n'est pas forcément le sien. Elle va traiter d'une question de désir chez une femme algérienne, un désir qu'elle se découvre pour les femmes, et notamment pour une femme. Donc il y a une romance comme ça, très bouleversante dans le film, et d'ailleurs une romance traitée comme n'importe quelle romance, c'est-à-dire une romance avec un échec amoureux, un ghosting de sa part, le manque, et puis les retrouvailles. Alors je vous raconte pas comment se déroulent les retrouvailles. La Petite Dernière, voilà, m'a bouleversée. C'est vraiment le film d'Afsia Herzi, son meilleur film jusque-là, où elle se révèle véritablement cinéaste, elle s'empare d'un sujet, et puis elle le traite de la meilleure manière qu'il soit. La Petite Dernière, avec une actrice donc qui a reçu le prix d'interprétation féminine, Nadia Militi, et le film La Petite Dernière a reçu d'ailleurs aussi la Queer Palm, un jury présidé par Christophe Honoré. Afsia Herzi est cinéaste dans ce film parce qu'en fait elle traite de cette romance et de cette émancipation de son désir d'une manière très simple, très humaine, avec des grands moments de tranche de vie. Voilà, c'est là où elle prend de Kechiche, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui s'étalent, de repas, de discussions, de fêtes, et où c'est dans ces tranches de vie où il y a à la fois des choses exprimées, des dialogues anecdotiques. Voilà, des repas, comment tu as fait ce plat. Et de ces tranches de vie anecdotiques s'immisce une inquiétude, un regard de cette actrice qui, en fait, tait. Elle tait son désir parce que c'est un désir incompris pour sa communauté. Et donc ça, c'est très très fort, cette confrontation entre le dit et le non-dit. Et comment progressivement, c'est là tout le sujet du film, comment ce non-dit va s'exprimer. D'une scène ultime, qui est une scène de boîte de nuit, où ce corps mutique va se confronter à une communauté queer qui va crier haut et fort « 1, 2, 3, vive les lesbiennes !» Et cette scène cathartique pour ce personnage, qui dure très longtemps, d'ailleurs j'aurais même voulu qu'il dure encore plus longtemps, tellement ça fait monter comme ça quelque chose de quelque chose qu'elle tait et qui enfin se relâche et s'exprime. Donc c'est un film bouleversant, La Petite Dernière.
J'en parle très bien, et j'ajouterais que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inventé un personnage même graphique de cette femme à la casquette, cette jeune femme à la casquette, d'ailleurs qu'on retrouvait dans les couloirs du Festival de Cannes. C'était assez rigolo, comme si le film sortait de l'écran. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnages comme ça, beaucoup de jeunes femmes qu'on a pu croiser au cinéma, notamment du côté du Cinéum, mais aussi apparemment du côté du Palais, qui étaient vraiment presque des avatars de ce personnage féminin principal de La Petite Dernière. Puis j'ajouterais qu'il y a quelque chose de vraiment très beau sur le geste, sur le toucher dans le film, dès le départ, puisque le film commence par une scène d'ablution, mais il y a comme ça quelque chose de très, très, très beau sur les mains pour cuisiner ou pour toucher un corps, etc. Enfin, vraiment, c'est un peu le fil rouge du film qui se passe comme ça au fil des saisons. Il y a vraiment chapitré comme ça avec plusieurs saisons qui se déroulent. Et c'est donc adapté, je ne sais plus si tu l'as dit, du roman de Fatima Das.
Exactement, je ne l'ai pas dit, en effet.
Et voilà, qui était très important pour Afsia Herzi et qui a été...
qui a été un petit événement de librairie, voilà. Effectivement, quand il est sorti.
Exactement. Voilà. Et le film sera
en salle le 1er octobre.
Le 1er octobre.
Et une petite pub, La Petite Dernière. Donc j'ai eu l'occasion d'interviewer à Cannes Amine Bouafa, qui est le compositeur qui rencontre Afsia Herzi, le compositeur de Timbuktu ou de le film de tunisien Olfa. Les filles d'Olfa. Et je l'ai interviewé avec la monteuse, Géraldine Mangenot. Alors c'est pour ça juste que je l'évoque, en fait, c'est que le montage est très important dans ce film, et pour la musique, mais aussi pour le rythme du film. Enfin, c'est important dans tous les films, mais là, Géraldine Mangenot tenait évidemment à participer à cet entretien avec la musique, puisque c'était un moment clé.
Après, moi j'ai un petit bémol, je trouve la musique est très bien, mais qu'il y en a un peu trop dans le film.
Ah. Amine, si tu nous écoutes. Résurrection maintenant de Bigan, pour terminer sur le palmarès officiel. Résurrection de Bigan, voilà, Pierre,
c'est un prix spécial, hein, c'est ça qui est assez amusant, c'est que il semble qu'il n'y ait pas assez de prix hein, dans ce palmarès, puisqu'ils ont fait un double prix du jury, plus un prix spécial, donc un prix qui a été rajouté à l'ensemble, donc pour récompenser un film spécial aussi.
Alors là-dessus, Juliette Binoche l'a dit en conférence de presse du jury, c'est son prix. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas partagé par les membres du jury, et Juliette Binoche a créé ce prix spécial pour dire, voilà, elle a eu un coup de cœur vraiment avec ce film, donc c'est vraiment le prix de Juliette Binoche.
D'accord, donc c'est le prix spécial Juliette Binoche.
Voilà, en tout cas, elle-même l'a dit lors de la conférence de presse du jury, et d'ailleurs, même quand c'est le premier prix qui a été remis par le jury, en fait, Résurrection, et Juliette Binoche, la manière dont elle en a parlé, on a l'impression que c'était la palme, quoi. Elle a dit, j'ai eu un coup de cœur, c'était vraiment une évasion, et voilà, donc on a l'impression qu'elle parlait de la palme, donc c'était vraiment sa palme à elle, Résurrection de Bigan, donc moi qui m'a vraiment emporté. Bon, après, parfois, un peu, voilà, on se perdait un peu dans le labyrinthe onirique, mais c'est une vraie proposition de cinéma, un vrai geste, un geste fort.
Et un film qui a un parcours quand même assez intéressant, puisqu'il a été ajouté vraiment au dernier moment dans la liste de la compétition. Il y avait des rumeurs, on savait effectivement que Bigan préparait ce nouveau film, quand même un jeune réalisateur chinois très très suivi pour les propositions formelles qu'il fait, et le film a été en montage pendant très 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 longtemps, la version était très très longue, il a tardé à avoir son visa de la part du gouvernement chinois, ce qui est une condition sine qua non pour qu'un film puisse être diffusé, et il a été livré dans une version a priori définitive, vraiment la veille de la projection, enfin ça s'est fait très 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 vite, et c'est pour ça qu'on se pose, comme disait Bernard tout à l'heure, la question du fait qu'est-ce que le film ne sera pas en fait retravaillé avant sa sortie, parce que peut-être qu'ils ont précipité le travail pour pouvoir montrer quelque chose, et voilà. On se souvient de l'exemple fameux de Mektoub My Love Intermezzo, oui, d'Abdelatif Kechiche, film qui n'était pas terminé lorsqu'il a été montré à Cannes, et qui n'est
toujours
il y a
pas
maintenant
terminé.
Plusieurs années, et qui n'est toujours pas terminé, qui ne le sera jamais. Donc cette expérience fut assez formidable pour ceux qui l'ont vu.
Après, juste en une phrase, mais c'est vrai que c'est intéressant ce palmarès, parce que le fait qu'elle ait débuté de manière un peu fébrile par ce prix montrait bien que effectivement elle voulait à tout prix récompenser ce film, mais que ça avait, je pense, été très difficile pour ce palmarès, pour départager tous ces films, et que peut-être ça a bougé, que peut-être un film a été deux minutes Palme d'or avant qu'il ne soit planté par un autre, etc. Et que ce palmarès a dû être compliqué.
Il faut quand même dire qu'on avait un jury, et ça c'est toujours fascinant à Cannes, on a un jury qui est quand même très éclectique, où se croisaient le cinéaste sud-coréen Aung San-Suu, donc Juliette Binoche, Leila Slimani, l'écrivaine, on avait Jeremy Strong, l'acteur donc, de Succession et de pas mal d'autres films, donc moi j'aimerais quand même beaucoup en les entendre discuter, parler ensemble, parce qu'on a des univers de cinéma qui sont quand même très 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 différents les uns des autres.
Il y a la vidéo sur le site du festival de la conférence de presse, donc on peut les entendre parler, débriefer le palmarès à leur tour. Donc je vous invite, auditeurs, auditrices, d'aller voir sur le site du festival la vidéo de la conférence de presse du jury, où justement ils peuvent débattre. Moi, c'est un jury prometteur pour moi. J'aimais beaucoup toutes les personnalités. Il n'y avait pas, voilà, des personnalités comme Robert Unslund une année où on sentait que c'était des coups de force spectaculaires qui allaient être privilégiés. Là, on sent que voilà, c'est assez équilibré et ça s'est fait, même si peut-être ça ne s'est pas fait simplement, en tout cas, on sent que ça s'est fait en douceur. Il n'y avait pas une volonté d'imposer Alpha, par exemple, de Julia Ducournau, que je déteste. Voilà. Musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On sent dans cette musique ce que je disais tout à l'heure, le côté morriconien avec la guitare, la flûte. Il s'agit de la musique de Florencia Di Concilio, qu'on avait pu apprécier chez Léa Misius, hein, notamment Ava ou Les Cinq Diables. Et là, c'était dans Le Mystérieux Regard du Flamant Rose, un film chilien de Diego Céspedes, qui était un premier long métrage chilien, qui se déroule donc dans le désert chilien. Donc on a cette flûte, ce sifflement aussi. L'action se déroule dans les débuts des années 80. 80 et relate l'histoire de la jeune Lydia grandissant au sein d'une famille queer aimante et marginale dans un village chilien isolé. Donc on a ce côté voilà, village, ce côté communauté bienveillante, queer, et le film Le mystérieux regard du flamant rose a donc reçu le grand prix Un certain regard, ce qui nous permet de débriefer les trois dernières sélections à aborder. Un certain regard, quinzaine, semaine. Un certain regard, donc, le mystérieux regard du flamant rose que j'ai assez aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce regard porté sur ces personnages queer avec bienveillance, non pas dans le jugement. Il y a quelque chose de très tendre et en même temps revanchard, parce qu'il y a une intrigue un peu criminelle aussi de revanche sur le patriarcat. Et ça se fait de manière à la fois réaliste, brute, et en même temps des surgissements surréalistes baroques. Voilà pour le mystérieux regard du flamant rose. Alors je vais annoncer juste le palmarès d'Un certain regard, et puis qui aura vu tel film pourra l'aborder. Donc il y a Un poète de Simon Meza Soto qui a reçu le prix du jury, le prix de la mise en scène pour le tandem Arab et Tarzan Nasser pour Once Upon a Time in Gaza, prix du scénario pour Pillion de Harry Lighton, prix d'interprétation féminine pour l'actrice de Le rire et le couteau de Pedro Pino, Cléo Diarra, et le prix d'interprétation masculine pour Frank Dillian de Urkin de Harris Dickinson.
Oui, bah, moi de ces films, j'ai particulièrement aimé Un poète, Un poeta de Simon Meza Soto, ce film qui raconte l'histoire vraiment d'un poète raté, film colombien qui est persuadé, a eu son heure de gloire par le passé et vit un peu de cette ombre, de cette heure de gloire, et trouve un boulot de prof pour un peu gagner sa vie. Et là, il rencontre une jeune fille qui écrit des poèmes, et il est persuadé de voir en elle une génie de la poésie, et donc il devient en quelque sorte son mentor, sauf qu'elle n'a pas du tout envie de devenir poète. Elle vient d'une famille très pauvre et elle a d'autres rêves que celui-là, qui est son rêve à lui. Et c'est vraiment une comédie douce, amère, parfois un peu, en particulier sur la fin, un peu violente pour ses personnages, mais qui est souvent très très drôle, avec un personnage principal très très bien croqué, hein, un acteur amateur en plus, c'est son premier rôle au cinéma, et qui campe superbement ce personnage qu'on a tous déjà croisé, de génie incompris, qui vit un peu dans le souvenir de ses gloires passées. Très bien filmé aussi, filmé comme ça en super 16 mm, c'est une très belle image, un très joli film.
Alors, pas vu de films qui sont palmarès, mais j'ai vu notamment un film qui s'appelle The Plague de Charlie Pollinger.
Et qui a reçu le prix de la création sonore.
Ah bah voilà, très bien. Et qui est un bon film. Et sur une équipe de jeunes apprentis en waterpolo. Et qui. Et c'est un film vraiment sur le harcèlement. Au sein d'une équipe de sport en fait et avec cette rumeur comme quoi l'un d'entre eux ayant des plaques rouges sur le corps a une espèce de nouvelle lèpre en fait, voilà, qui est pour ça que ce film s'appelle The Plague, et c'est le prétexte en fait pour vraiment créer ce processus de harcèlement au sein de ce groupe. Voilà, c'est un film assez fort qui fait penser un peu à des films comme Ça m'achetait des mouches par exemple, voilà.
Super, et The Plague, donc c'est un prix à la marge du festival d'officiel. Ouais. C'est la semaine du son, qu'un festival à Paris qui remet donc chaque année le prix de la création sonore, qui est revenu donc à The Plague. Donc recommandation The Plague, recommandation Un poète, recommandation Le mystérieux regard du flamant rose, et j'ajouterai, sans forcément en parler davantage, mais L'inconnu de la grande arche de Stéphane Demoustier, qui fait partie aussi de la sélection Un certain regard, que je vous recommande pour ma part. Instant musique de Pierre Desprat. Pierre Desprat, qu'on a connu à la musique des Garçons Sauvages de Mandico, et qui a signé à l'instant la musique de Kika d'Alex Poukine, qui était en sélection à la Semaine de la Critique. Pierre Desprat, d'ailleurs, c'est vraiment un compositeur de musique de film très fréquent, puisqu'il avait pas moins de 4 films en sélection à Cannes. Il en avait 2 à la Semaine de la Critique, Kika, enfin 1 à la Semaine de la Critique Kika et 1 La Danse des Renards à la Quinzaine. Et il avait aussi 2 courts-métrages présents dans les sélections. Donc pour ce qui est de Kika que l'on vient d'entendre, avec ses textures électroniques, ses ostinatos d'électro, c'est une boucle comme ça qui nous relate un peu le parcours de ce personnage central, Kika, incarné par Manon Clavel, un film que j'ai beaucoup aimé en fait. C'est l'histoire de Kika qui est une travailleuse sociale, enceinte de son second enfant, qui doit faire face au décès soudain de son compagnon. Cette tragédie la plonge dans la précarité financière et une profonde détresse émotionnelle. Pour survivre, Kika est contrainte de mobiliser une force intérieure insoupçonnée, d'explorer des voies non conventionnelles pour gagner de l'argent, notamment le monde du BDSM. Et donc on est dans l'immersion dans ces relations tarifées, domination ou soumission. Et c'est assez fort comment ce film nous immerge vraiment dans ce monde-là, non pas d'une manière documentaire, mais d'une manière mentale, d'une manière intime. Comment elle le vit intimement, comment elle est partagée entre le rejet de ce monde et en même temps le besoin de survivre. Donc c'est vraiment un film de survie aussi d'une certaine manière, comment elle va remonter la pente mais retomber à tout niveau. Donc c'est vraiment un film de redressement et de chute permanente. Donc voilà, très beau film, Kika d'Alex Poukine, qui est présenté donc à la Semaine de la Critique. Qui veut parler d'un autre film de la semaine ?
Bah, moi, je veux bien dire un mot rapide sur un film qui est vraiment un coup de cœur, présenté à la semaine, Left-Handed Girl de Shi Jing-Tzu, un film qui a reçu le prix Fondation Gann d'aide à la diffusion, donc un peu le deuxième prix de la Semaine de la Critique. Shi Jing-Tzu, elle est taïwanaise, mais elle est surtout connue pour être la collaboratrice de longue date de Sean Baker, le réalisateur américain qui a eu la Palme d'Or avec Anora l'an passé. Et ils avaient tous les deux réalisé notamment un film ensemble qui s'appelait Take Out, qui se passait à New York dans la communauté des livreurs sans papier chinois, qui était un film ultra réaliste, drôle parfois, un peu dans le style de Sean Baker, mais qui ressemblait aussi beaucoup à l'histoire de Suleiman dans la manière dont il filmait vraiment un espèce de stress et les rues de nuit de New York, puisque c'était un livreur à vélo, donc on avait effectivement des liens très forts avec l'histoire de Suleiman. Et là, Left-Handed Girl, c'est un film qui se passe complètement à Taïwan, un film un peu à hauteur d'enfant, comme on dit, puisque c'est l'histoire d'une petite fille dont la mère travaille dans un restaurant, dans un marché de Taipei, et son grand-père, elle est gauchère, et son grand-père lui dit que bah non, elle peut pas écrire de la main gauche, c'est pas possible parce que c'est la main du diable. Et quand elle entend ça, bah c'est la révélation. Du coup, elle se dit bah elle peut tout faire avec cette main, elle peut voler dans les magasins parce que c'est pas elle, c'est le diable qui le fait. Donc c'est un prétexte à beaucoup de choses très 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 drôles, très touchantes, très émouvantes. C'est superbement mis en scène. On passe vraiment un très bon moment devant ce film qui prend tout ce qu'il y a de joli aussi dans le cinéma de Sean Baker, mais pour un univers un peu différent hein, puisque c'est un univers familial. Le enfantin, c'est donc Left-Handed Girl, très beau film de Shi Jing-Tzu.
Voilà, moi j'ai vu et je recommanderais Un fantôme utile, le film qui a eu le grand prix de la Semaine de la Critique, qui est un film très singulier, un film thaï, un premier long métrage thaï, qui est un film très très singulier sur des histoires de fantômes qui se réincarnent à travers des aspirateurs ou des frigos, enfin du ménage, de l'électroménager. Et puis c'est un film à la fois queer, politique, engagé aussi par rapport à l'histoire récente de la Thaïlande. Donc c'est un film très, très important, très intéressant, qui part parfois un peu dans tous les sens, mais qui mérite vraiment d'être vu, qui va être pris à la Cinémathèque. Et aussi Nino, qui a valu le prix, film de Pauline Lecaisse, premier long métrage français de la compétition de la Semaine de la Critique, qui a valu le prix à Théodore Pellerin, l'acteur principal, qui est une sorte de Cléo de 5 à 7, une variation en tout cas sur cette histoire de Cléo de 5 à 7, voilà, un personnage qui apprend qu'il est malade et qui, voilà, dès le début du film. Et voilà, qui est un film assez, assez passionnant aussi.
Super. Il nous reste 5 minutes pour citer chacun un film de la quinzaine. Peut-être juste pour dire que la Caméra d'Or cette année est revenue à un film de la quinzaine des cinéastes, The President's Cake de Hassan Hadi, un premier film irakien. Je vais citer juste voilà, un film chacun sur la quinzaine. Alors moi, j'ai vraiment mon coup de cœur du festival, de toutes sélections confondues, qui surplombe tout. Alors avec peut-être L'Agent Secret, et puis évidemment Mastermind de Kelly Richard. Moi, j'aime beaucoup Sorry Baby, qui est le film de clôture de la quinzaine, réalisé par Eva Victor, un film tout en tendresse, humour, et qui traite pourtant d'une exploration émotionnelle d'un personnage sous trauma, Agnès, personnage principal, incarné par la réalisatrice elle-même, confrontée à un traumatisme que je ne vais pas révéler, qu'on apprendra plus tard, mais elle va vraiment essayer de surmonter ce traumatisme auprès d'une amie, une colocataire, auprès d'un chat, auprès d'un enfant, l'enfant de sa colocataire, et donc c'est un récit de résilience, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont ce film, c'est un film de guérison en fait, et donc un film très doux, très drôle même parfois, sur malgré tout un trauma, donc voilà, un film très beau, Sorry Baby d'Eva Victor.
On a très peu de temps, donc je vais laisser Pierre parler parce qu'on a le même film en commun, c'est le film de Nadav Lapid, Yes, j'imagine que tu voulais parler
de
celui-là.
Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses quand même très bien à la quinzaine, je trouve, cette année, on aurait peut-être pu faire presque une émission entière sur les films de la quinzaine, qui sont dans des genres et des styles très différents, mais c'est vrai que s'il y avait un grand film à retenir, c'est certainement Ken, Yes, le film de Nadav Lapid, qu'on aurait aimé voir en compétition, qui avait vraiment le niveau de la compétition, qui pour moi est un des grands films de cette année du Festival de Cannes, et qui est Les Adieux de Nadav Lapid à Israël, donc son pays, puisque c'est un réalisateur israélien qui vit aujourd'hui en France, et qui est profondément opposé à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et l'histoire d'un couple d'artistes, musiciens qui font la fête, qui vivent dans l'aveuglement par rapport aux réalités de la guerre et des bombardements dans la bande de Gaza et qui voient les limites de cet aveuglement. Et c'est un film aussi sur la dérive dictatoriale de ce pays. Comment est-ce qu'on dit adieu à un pays? Comment est-ce qu'on dit aussi adieu à sa mère? Puisque la mère de Nadav Lapid, qui était aussi quelque chose qui le rattachait à son pays et qui était aussi sa monteuse, est décédée avant le tournage de ce film. Il y a tout un lien aussi à la mère disparue. Et comment est-ce qu'on élève son enfant aussi quand on est israélien? Est-ce qu'on l'élève en Israël ou est-ce qu'on l'élève ailleurs? Qui est aussi une question que se pose Nadav Lapid, qui a un jeune enfant, et que se posent les personnages du film. Donc vraiment, s'il y a un grand film politique, on parlait de la Palme d'Or politique cette année, mais je pense que s'il y a un grand film politique aujourd'hui, qui est politique dans le sens qui nous questionne véritablement et qui n'embrasse pas des sujets dont on est d'accord d'avance, mais qui nous questionne véritablement et qui provoque le débat et qui fait avancer la réflexion politique, c'est certainement ce film « Oui, Yes, Ken » de Nadav Lapid.
Ok, que je n'ai pas vu, donc je vais le rattraper à la reprise de la quinzaine des cinéastes à Paris. Et on se quitte avec un film de la quinzaine, la musique d'Émile Sornin pour « L'Englouti » de Louise Aymon, un film donc de la quinzaine où on va reconnaître également une touche Morricone, hein. Et oui, Morricone est partout, on l'a abordé tout à l'heure, on le retrouve également dans cette musique.
Et juste pour terminer, donc préciser que cette table ronde critique était réalisée par René Clancy et Enrico Mastrogiovanni, merci.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.